Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est un genre littéraire que je n'avais jamais exploré. Et pourtant, il y a des amateurs passionnés chez les ados, les jeunes adultes et même les moins jeunes. Il fallait donc que je m'y mette. Il s'agit de la littérature fantastique. Pour nous en dire plus, j'ai fait appel à un de ses spécialistes, l'écrivain Chrysostome Gouriot, auteur d'un nouveau roman intitulé « La brigade des chasseurs d'ombre », édité par la maison d'édition Sabarkian. Bonjour Chrysostome Gouriot.
Bonjour.
Vous avez un très beau prénom, pas toujours facile à prononcer, hein, dans la foulée, il faut s'entraîner un peu. Hein.
Oui, mais je m'y suis habitué, heureusement.
Oui. Alors, votre roman est à la fois, un documentaire sur le chamanisme, mais pas que, un thriller, également un film, un roman fantastique. Quand je parle de documentaire sur le chamanisme, on sait quand même que le chamanisme est pratiqué dans de nombreuses régions, et en particulier chez les Indiens d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, même dans en Amérique du Sud, je pense. Et puis, on en a beaucoup parlé au Tibet, parce que je sais qu'il y a une Française qui est devenue chamane en allant au Tibet. J'avais vu quelque chose à la télévision là-dessus. Voilà, alors... Et puis, la littérature fantastique, même gore, qui fait peur. Expliquez-moi d'abord ce genre particulier.
Alors, la littérature fantastique, de façon très personnelle, parce que je suis pas franchement spécialiste de la question, même si j'en ai énormément lu. Donc, en tant que lecteur, c'est un genre littéraire qui m'a énormément influencé, marqué, dans laquelle j'ai plongé très tôt. Ça a fait partie des genres littéraires que je lisais, auxquels je me suis confronté, attaqué,
dans lesquels j'ai plongé. J'imagine.
Alors même pas adolescent, déjà très jeune, parce que ça nourrissait énormément mon imaginaire. Je crois que c'est ça qui plaît, sans doute.
Oui, c'est
que ça fait bouillonner mon imagination, et ça permet aussi de porter un regard sur le monde qui nous entoure de manière détournée, en parler sans s'y confronter directement, en prenant des biais.
On parlera de ce plaisir justement à lire ça, parce qu'effectivement, en y réfléchissant après avoir lu votre ouvrage, je me dis qu'il y a beaucoup de choses en effet qui peuvent accrocher des jeunes. Alors, c'est peuplé de quoi ? Il y a des phénomènes bizarres.
Oui, alors c'est une intervention, on va dire, magique, entre guillemets, dans notre monde réel. C'est ça qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours attiré. Contrairement à la fantasy, qui est un domaine littéraire, un genre littéraire bien particulier, dans lequel on va inventer des mondes et dans lequel on va faire intervenir des créatures bien particulières.
Comme le cycle du Chai, peut-être.
Oui, comme le Seigneur des Anneaux, oui. ce genre de littérature.
Entre science-fiction...
Alors la science-fiction, c'est vraiment un genre littéraire cinématographique bien particulier, puisque là, pour le coup, on anticipe sur un futur technologique bien, bien particulier. Dans l'heroic fantasy, on va développer des mondes avec des créatures fantastiques, magiques, des centaures, des trolls, des nains, voilà, des elfes, etc. La littérature fantastique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, l'intrusion dans le monde réel tel qu'on le connaît, quelle que soit l'époque dans laquelle on vient se placer, d'un élément qui ne lui appartient pas. Donc là, pour le coup, des créatures qu'on ne connaît pas, des mutations,
des élément majeur.
Voilà, exactement.
Enfin, ce sont souvent quand même des personnages pas très sympathiques.
Alors, sans doute parce qu'on aime en tant qu'auteur se faire peur, enfin faire peur, et en tant que lecteur se faire peur.
Oui, alors parce qu'on est bien d'accord, ce genre de littérature fantastique doit susciter au moins de l'angoisse.
Alors, je ne sais pas si elle doit susciter de l'angoisse. En tout cas, elle doit nourrir et faire rentrer en ébullition l'imagination. Et effectivement, il y a tout un pan de la littérature fantastique qui vient générer de la peur. L'intrusion, de toute façon, d'un élément inconnu dans le monde connu vient briser le fil du quotidien et donc vient inquiéter, vient interloquer, vient faire appel à quelque chose auquel on n'est pas habitué.
Est-ce que ce n'est pas le monde du mal qu'on explore, là ?
Pas nécessairement le monde du mal, non. Alors, effectivement, dans ce genre littéraire qui veut faire peur, on va introduire des éléments
machiavéliques.
Alors, machiavéliques peut-être, démoniaques parfois, mais c'est parfois juste des éléments inquiétants des éléments inconnus auxquels on est confronté, une situation inquiétante qu'il va falloir résoudre, mais sans forcément que ce soit le problème du mal qui vienne se poser.
Alors, votre livre, intitulé donc « La brigade des chasseurs d'ombre », vous nous direz un mot de ce titre, un bref résumé, il s'agit de quoi ?
Alors, un bref résumé.
C'est pas facile, hein ?
Non, c'est pas facile. Alors, d'autant
parce
plus
que votre livre est dense.
Alors, en plus, je me sens toujours assez mal à l'aise quand je résume une de mes histoires. J'ai toujours l'impression de trahir mon intrigue.
Et d'oublier quelque chose ?
Voilà, soit oublier un élément important, soit en divulguer trop.
On ne parle jamais de la fin. Hein,
non, bien évidemment. Alors, je vais essayer quand même d'en faire un résumé. Cette histoire raconte les aventures de deux gardes forestiers, Hugues et Lazare, qui sont gardes forestiers dans le parc de la Mauricie au Québec. Hugues est descendant du peuple Métikamekw, donc une tribu amérindienne, canadienne, qui, donc Hugues a été élevé plutôt par ses grands-parents, notamment son grand-père, qui a une place assez importante dans la réserve où ils habitent, puisqu'il est, il est conteur, il est détenteur de la mémoire de son peuple. Mais Hugues a rejeté tout ça à son adolescence, en faisant sa crise d'adolescence, entre guillemets. Il s'est rebellé contre tout ça en prenant ce qui était de la culture pour du folklore, et a fini par, au fur et à mesure de sa vie, par devenir garde forestier. Lazare, lui, est originaire de France, c'est un maudit français, comme on dit au Québec, qui est parti habiter là-bas à la suite d'un drame personnel qu'on découvrira au fil de l'histoire, et qui, de petit boulot en petit boulot, est devenu lui aussi garde forestier dans le parc de la Mauricie. C'est comme ça donc que les deux héros se sont rencontrés, sont devenus amis.
Le parc de la Mauricie, il faut le situer au nord, au milieu du Canada.
C'est ça.
Du Canada,
c'est
hein,
ça, ouais, tout à fait.
Montréal,
au nord, voilà, tout à fait. Et donc, Hugues et Lazare sont devenus amis au fur et à mesure de après leur rencontre. Et l'histoire commence au moment où, une quinzaine de jours après une grande tempête de neige, deux militaires ont disparu dans cette tempête au cours d'un entraînement intensif. Et Hugues et Lazare sont envoyés, ainsi qu'une partie de leur équipe, à la recherche de ces deux militaires pour voir s'ils sont toujours vivants ou pas. L'équipe se scinde en deux, une partie de l'équipe part dans une direction, Hugues et Lazare part dans une autre, ils doivent se retrouver au milieu du parcours. Effectivement, Lazare et Hugues vont découvrir l'un des deux militaires dans un abri, dans une cabane, au milieu du parc, dans un état plus tout à fait en bon état, on va dire. Et au moment où ils le retrouvent, ils sont attaqués tous les deux par ce qui leur semble au départ être un loup et un ours, et qui vont se retrouver être en fait des créatures
énormes,
à moitié décomposées, en tout cas dans un état de putréfaction avancée. Lazare va se faire mordre par une des deux créatures au cours de cette attaque. Ils vont réussir à s'en sortir, retrouver l'autre militaire. Mais cette rencontre, cette attaque les bouleverse. Hugues est renvoyé à toute cette culture que lui à laquelle il a renoncé. Il revient aux histoires que lui a racontées
de son grand-père.
Voilà. Et à partir de là, ils vont commencer à enquêter sur ce que sont ces créatures, d'où elles viennent et pourquoi elles les ont attaquées.
Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant déjà, c'est que ça se passe essentiellement, mais pas seulement, on en parlera, au Canada. Et je me dis, oui, dans ce pays qui est quand même très attaché à sa nature, et quand on connaît le Canada, c'est vrai qu'elle est omniprésente, et on imagine très bien, elle est surveillée, amoureusement protégée, et puis ça abrite des êtres inquiétants. Alors, on peut imaginer l'espace auquel ils ont droit. Le thème, est-ce que j'ai bien compris si je dis que c'est autour de la volonté de puissance, de pouvoir, de contrôle
Alors, il y a effectivement de ça dans l'histoire, dans la mesure où, effectivement, bon, ils vont se retrouver...
Il y a un côté politique, quand même.
Oui. Alors, il y a toujours un côté dans les livres que j'ai pu écrire.
Oui, je rappelle à nos auditeurs que ce n'est pas le premier de vos ouvrages.
Non, c'est pas mon premier roman. J'ai effectivement écrit une dizaine de romans, notamment au départ des polars, des romans noirs, plutôt pour adultes. Et je me suis tourné vers la littérature jeunesse il y a de ça quelques années, notamment avec un roman pour enfants déjà chez Sarbacane qui s'appelait Rufus le fantôme ou la grève de la mort, où on suivait l'histoire d'un jeune fantôme qui rêve avec son copain Octave, qui lui est zombie. Ils vivent dans un cimetière où il y a tout un tas de revenants, et ils vont à l'école, des jeunes revenants. Et il se trouve que dans le cimetière où ils habitent, il y a la mort qui a son bureau. On découvre que la mort n'est pas du tout toute seule pour s'occuper de 7 milliards d'êtres humains, que c'est en fait une multinationale avec des succursales un peu partout. Et il y a un des ouvriers de la mort qui a ses bureaux dans leur cimetière, et Rufus et Octave rêvent de devenir la mort plus tard. Et il se trouve qu'en fait, les conditions de travail de la mort vont changer et que ça leur va pas du tout, donc ils vont organiser la première grève de la mort. Voilà, donc il y avait déjà une portée sociale et politique dans ce roman. Dans La Brigade des Chasseurs d'Ombre, même si c'est pas le fond...
J'ai pas dit qu'il y avait ça. Effectivement, il y a quand même, je dirais, une question sur la spiritualité quand même, importante.
Alors, il y a toute une réflexion, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose de cet ordre-là, sur la question du pouvoir. C'est ce que je fais du pouvoir qui m'est attribué, comment je le contrôle et comment je lui laisse aussi la bride. Puisque, donc, sans trop divulguer l'intrigue, effectivement, Lazare est mordu par une de ces créatures. Il va commencer à se transformer.
C'est un mutant.
Il devient une sorte de mutant, et justement, cette mutation, ou en tout cas ce changement, est vécu comme l'intrusion d'une autre personnalité en lui-même, et c'est tout ce combat qu'il va mener pour le contrôler, se contrôler et ne pas se laisser envahir.
Alors, c'est d'ailleurs intéressant, vous voyez, là je devance un petit peu mes questions, parce que c'est également l'animalité qui est en nous. Il va lutter contre cette animalité grandissante.
Alors, à la fois, il lutte contre pour ne pas se laisser envahir et ne pas se laisser dominer, mais surtout, ce qu'il va découvrir, c'est qu'il ne faut pas qu'il la brime, qu'il la contrôle, qu'il l'écrase, mais qu'au contraire, il arrive à l'apprivoiser pour vivre avec. Et donc, c'est pas tant le fait que son humanité doive dominer l'animalité qui est en lui, plutôt que comment est-ce qu'il arrive à vivre avec cette part animale et comment est-ce qu'il arrive à la faire sienne.
Alors, on parle beaucoup de chamanisme dans ce roman, très présent chez les Indiens au Canada. Vous pouvez en dire un mot parce que nos auditeurs ne sont pas forcément au courant. Et en fait, c'est assez plutôt très présent, encore chez les Indiens, je crois, encore dans l'Est, très dans l'Est, et peut-être même en France. Alors, je ne sais pas si en France, mais j'ai l'impression qu'il y a des chamans.
Alors, il y a aujourd'hui tout un pan culturel qui est redécouvert au travers de différentes études, au travers de différents documentaires auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Il y a un documentaire qui a été réalisé par deux jeunes réalisateurs il y a de ça quelques années, qui s'appelait « En quête de sens », où l'un des deux réalisateurs a été un jeune homme qui a travaillé dans une grande entreprise multinationale et qui vendait de l'eau, et qui s'est rendu compte au bout du compte que... après quelques années de travail, que vendre de l'eau aux États-Unis, venant de France, à une espèce d'intelligentsia, ou en tout cas de classe, de haute classe, de classe supérieure américaine, alors que c'est un des besoins vitaux, c'était complètement aberrant. Et il a choisi d'aller découvrir d'autres manières de faire, d'autres manières de voir le monde, d'envisager les relations avec les autres. Et donc, de cette réflexion-là, de la part de ces deux jeunes gens, est né ce documentaire, donc En quête de sens. Et ils vont rencontrer justement, notamment, des chamans, dans différentes régions du monde, en Asie, en Amérique du Sud. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui a éveillé plusieurs formes de réflexion chez moi. Ce livre n'est pas né, cette histoire n'est pas née de nulle part non plus. Je suis parti au Québec il y a de ça quelques années. J'en suis revenu avec le début de cette histoire, parce que justement tout ce pan de la culture indienne, alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, amérindienne, ou en tout cas la culture de ces nations premières en Amérique du Nord était extrêmement intéressante, notamment dans la relation à la nature et au monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en fais un élément peut-être un peu trop folklorique dans cette histoire avec une force pour lutter contre d'autres forces qui essayent de prendre possession du monde. Mais c'est ce qui m'intéressait moi surtout, c'est justement ce rapport à la nature qui a été totalement inversé ou en tout cas perdu pour une grande part dans la société telle qu'on se l'est construit.
L'importance aussi de tout, je vais vous parler de la nature, l'importance, en ce moment on en parle beaucoup quand même, hein, de la nature, des animaux, le respect des animaux, de les regarder non plus comme des êtres absolument inférieurs que l'on peut écraser et en faire n'importe quoi. Et chaque partie influence le tout, d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est je ne sais pas si c'est très présent dans mon roman, mais en tout cas, du fait qu'il soit garde forestier et que le grand-père de Hugues soit à la fois conteur, un peu chaman, enfin, je laisserai les lecteurs le découvrir, mais il y a ce rapport à la nature qui est extrêmement important pour les deux personnages. Si Lazare, par exemple, quitte la France et vient se réfugier au Québec et puis trouve cet emploi dans le parc de la Mauricie, c'est pas un hasard. Il y a ce besoin pour lui de revenir à quelque chose d'essentiel dans ce lien à son environnement.
Et on voit justement dans cette société-là, en tout cas chez le grand-père, qui a des légendes, des superstitions. Et en fait, on laisse une part au monde des esprits. C'est un peu contre le rationalisme de notre époque. Enfin, ici, nous sommes dans une radio catholique, évidemment. Alors, on comprend bien qu'il y a quand même un refus de ce rationalisme, de cette omniprésence de ce qui est l'argent, et puis etc. Hein, en fait, on en est là.
Alors, un rejet, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour eux, ce ne sont pas des superstitions, c'est-à-dire que c'est une forme de relation au monde qui est autre que celle qu'on envisage aujourd'hui.
Mmh. Voilà. D'accord.
Et c'était ça, moi, qui m'intéressait, c'était ça que j'avais envie d'évoquer à un moment dans cette histoire.
Oui. Quand vous dites relation au monde, et c'est vrai que cette place, je trouve, qui est très intéressante, des esprits dans le temps et dans l'espace. Il y a ça également. Hein. Et d'ailleurs, dans votre roman, on parcourt le temps, mais on parcourt l'espace aussi.
Oui, alors, c'est pas un... Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu dans nos sociétés extrêmement rationnelles, ou en tout cas qu'on ne voit plus. C'est-à-dire qu'à force de ne voir que la surface des choses, sans parler d'esprit, je ne sais pas du tout si des esprits existent, s'il y a une vie après la mort ou pas, si on peut rentrer en relation avec les personnes qui sont mortes ou pas. C'est des expériences que je n'ai jamais faites, donc du coup, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Des gens y croient, et ça a fait partie de nombreuses cultures avant la nôtre.
De tout temps.
Je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu, sans aller jusqu'à dire qu'on a, qu'il y a possibilité de discuter, de parler, de rentrer en contact avec des esprits. Il y a toute une partie de la nature qui nous est devenue hétérogène et qu'on ne voit plus. Il y a des choses qu'on se refuse d'expliquer parce qu'on n'arrive pas justement à le prouver scientifiquement. Mmh. Et peut-être que la science n'est pas à même de tout expliquer, et peut-être qu'il y a un moment où l'imaginaire peut prendre le pas pour tenter d'expliquer les choses. En lien avec la science, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter complètement la rationalité pour quelque chose de totalement imaginaire, mais... Il faut de toute façon, à partir du moment où un scientifique émet une hypothèse, il se sert de son imagination pour poser cette hypothèse, qui après sera prouvée ou non.
Alors,
mais du coup,
oui.
Ça veut dire qu'avant même la rationalité et le concret du monde qui nous entoure, il y a bien quelque chose de plus spirituel qui vient donner des bases.
Y compris sans doute dans l'héritage que nous avons.
Sans doute.
Parce que vous parliez du rapport avec le passé, par exemple. Là, on fait. Il me semble que dans le chamanisme, en tout cas chez les Indiens, chez les les Indiens d'Amérique, ils font appel aux ancêtres, Non, je me trompe.
Oui, oui. Alors, je suis pas spécialiste de la question. C'est-à-dire que sur ce point-là en particulier, j'ai fait quelques recherches. Je me suis inspiré aussi beaucoup des lectures que j'ai pu faire, notamment dans la littérature fantastique ou autre. Du coup, je suis un peu embêté pour répondre à ces questions parce que je suis pas, je suis pas spécialiste et j'aurais peur de dire des bêtises. Mais oui, effectivement, il y a ce lien. Aux ancêtres, à l'histoire, comme vous disiez, à l'héritage et à tout ce qui nous a été légué, qui se pense comme une continuité et non pas comme on peut le faire aujourd'hui, comme une césure. C'est-à-dire que ce qui est passé est passé, laissons-le de côté, on n'en parle plus. On vient de ce passé-là, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui continue de nous construire aussi. Donc on ne peut pas en faire fi comme si ça n'avait jamais existé.
Oui. Alors, j'ai eu le sentiment en lisant votre ouvrage que c'était quand même la lutte du bien contre le mal, qui avait quelque chose dans ce sens-là. Et en particulier, je pense que le mal étant incarné par celui qui marche sur le vent. Et il a été autrefois emprisonné par la main noire des très anciens. Alors vous nous direz comment vous avez trouvé ces termes, parce que c'est très imagé. Il va revenir et il a soif de vengeance et de destruction. Alors... attendez, je suis en train de revoir un tout petit peu mes notes. Et il y a des créatures de la nuit, les Wendigos, qui se rassemblent pour accomplir les desseins de leur maître. Alors, c'est là qu'il y a la lutte et c'est là où on voit que Ude et Lazare vont intervenir parce que, en effet, c'est cet homme-là, celui qui marche sur le vent, qui est le Seigneur Tout-Puissant. Et encore que... on ira en Égypte à un moment donné. Hein, voilà, on ne va pas tout raconter. Alors, des petites questions comme ça. Vous parlez de chaman et parfois de sorcier. Est-ce qu'on les confond? C'est la même chose, plus ou moins?
Oui, après, ça fait partie de cette espèce de culture western, là aussi, un petit peu, hein, parce que c'est à la fois pour moi un thriller fantastique et aussi il y a ce côté western, les bons contre les méchants, mais les bons ne sont pas... uniquement bon. Cette lutte de Lazare contre ce qui est en train de l'envahir, c'est à la fois la lutte du bien, entre guillemets, puisque j'estime que Lazare est plutôt un gars sympa et qui a ses défauts comme tout le monde, mais qui est plutôt quelqu'un de sympathique. Mais en même temps, il n'a pas que des côtés sympas non plus. Ce qui fait que en lui, il va lutter contre cette bête qui tente de prendre ce côté animal, qui tente de prendre le pouvoir, mais comme je le disais, il lutte pas pour la repousser, mais pour arriver à vivre avec. Donc, il y a à la fois du noir et du lumineux, comme on dit dans Star Wars, ou du bon ou du mauvais dans chacun des personnages.
Dites-moi, Chrysostome, est-ce que vous pensez pas quand même que c'est le thème de la tentation? Avoir envie de succomber à des... Vous croyez pas?
Alors ça, pour moi, ça fait vraiment partie, là, pour le coup, du roman de chevalerie ou de la littérature de genre ou la littérature courtoise. C'est-à-dire, ça remonte même au tout début, à l'antiquité de la littérature. Tout héros est à un moment
confronté
par la facilité, par le mal, par le côté obscur, par... devenir le chevalier noir par la femme de son meilleur ami qui est aussi son roi. Enfin, la littérature est parcourue de tentations, évidemment.
Oui, oui. Alors, d'un côté, donc, les veilleurs et la brigade des chasseurs de l'ombre. Ce sont les veilleurs.
Alors, c'est à la fois les veilleurs. Ce que j'ai imaginé, c'est que, pour caricaturer un petit peu, le mal tente toujours et de manière incessante de prendre le pouvoir sur le monde. Et
à vrai dire, c'est ce que l'on observe.
C'est ce que l'on observe. Et le monde est aussi habité de gardiens qui tentent, tant bien que mal, de repousser le mal. Ce sont tous ces gardiens-là, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quel que soit l'endroit où ils vivent dans le monde, qui sont rassemblés sous ce nom de la Brigade des Chasseurs d'Ombre. Donc, il y a les Veilleurs qui, effectivement, donc, sont un des groupuscules, mais pas que, puisqu'on découvre d'autres groupes au fur et à mesure de l'histoire. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon les lecteurs n'auront plus rien à découvrir.
Mais disons que les rassure, il y a matière, vraiment.
Ça permettra aussi, éventuellement, d'écrire d'autres aventures qui se passeront dans d'autres lieux.
Absolument.
Avec quelques liens avec les personnages qui ont déjà été rencontrés.
Oui. Alors, je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter je crois que c'est un groupe ou un groupe. Oui, voilà. Disturb, The Sound of Silence, que moi je connais évidemment chanté par Simon & Garfunkel, mais c'est autre chose. Voilà, une autre interprétation.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my
d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, évidemment, interprété par Simon & Garfunkel, la solitude, le froid, les rues étroites et sombres n'ont pas exactement le même impact, mais nous sommes dans la brigade des chasseurs d'ombre. Le nouveau roman de Chrysostome, il va falloir que je m'entraîne, hein, Guriot, qui a, c'est son 10e ouvrage, il a écrit, vous m'avez dit bonjour, rebonjour Chrysostome.
Rebonjour.
Vous avez écrit des livres, des romans policiers, oui. Des romans pour jeunes également. Et je peux dire à nos auditeurs que ce livre s'adresse à des jeunes adultes, des adultes.
C'est ça, tout
bon,
à fait.
Alors les adolescents, évidemment il y a des passages un peu hard, mais les adolescents maintenant...
Alors comme disait un de mes amis libraires, effectivement, oula, il y a de la viande sur les murs. Mais pas beaucoup, ce n'est pas que ça. Donc oui, c'est un roman fantastique, il y a quelques passages parfois un peu violents, des scènes d'action comme on peut en voir dans les films. Toujours très exagéré, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir un rapport à la violence assez distancié, tout en l'exagérant, de façon à ce que ça ne soit...
Bah justement, pas tellement trop plausible.
Exagéré. Mais voilà, c'est ça, pour la distancier.
Oui, d'accord. Alors, en particulier, bon, il y a cette première scène qui est prenante. Il s'agit de parents et nous sommes au 19e siècle. Et après, nous passons au 20e. Au 20e, oui, c'est ça. Au 19e siècle, un homme et une femme qui sont certainement des trappeurs, des migrants, qui se sont installés en pleine forêt, je pense, qui ont construit une maison en rondin et qui vont être attaqués par des êtres surnaturels. Et leur petite fille va être enlevée, les parents vont être tués. Cette petite fille va être enlevée et c'était une démarche volontaire. Apparemment, cet enlèvement avait un but.
Tout à fait.
Ouais. C'était une messagère ?
Alors en fait, elle est destinée, comme on le découvrira un peu plus tard, à devenir le chaman, la chamane de la tribu des méchants. On va dire ça. On va dire ça comme ça.
On pourrait dire même la sorcière. À ce
oui, tout à fait.
Oui,
tout à fait. Voilà. Après, j'emploie à dessein hein, le terme de chamane, puisqu'elle a vraiment ces pouvoirs-là, ce lien avec la nature, avec les ancêtres, avec tous ceux qui l'ont précédée. Du coup, là, on est vraiment dans l'imaginaire du chamanisme tel que on peut le voir dans la littérature fantastique ou dans le cinéma.
D'ailleurs, alors voilà ce que dit le grand-père au sujet du chamanisme, de ce qu'il croit. Nous ne sommes pas faits que de matière brute, mon garçon. Tout ce qui nous entoure nous traverse et chaque objet, chaque être que nous rencontrons porte une part d'histoire. Si l'on sait la déployer, en défaire patiemment les plis, il est possible d'en lire la trame. Il ajoute, je ne peux affirmer que ces créatures existent, celles que vous avez vues, ou qu'elles ont existé telles que tu les as vues. Mais si de quelque manière que ce soit, elles ont un rapport avec celles de la cabane, bon, alors, évidemment, Lazare se crispe parce qu'il a vu ces choses affreuses. Il dit, il peut t'appartenir de changer cette réalité, mais pas de décider si certains éléments existent ou non. Tu peux les combattre, les détruire peut-être, mais tu ne peux les nier. Et encore... il y avait une autre créature, dit Lazare, un squelette à tête animale. Sa poitrine abritait un cœur de glace. Alors il vit le visage du vieux Jacques se tendre et ses pupilles s'agrandir. Que s'est-il passé ? Je suis mort, répondit Lazare. Alors, Lazare est un personnage étrange et je crois que le prénom n'a pas été choisi pour rien.
Non, évidemment.
Oui, évidemment. Je ne suis pas très maligne. Hein.
Évidemment. Non, effectivement, Lazare, c'est celui qui revient de parmi les morts. Donc, effectivement, oui, tout à fait, le prénom est choisi à dessein.
Oui.
Lazare, ce que j'ai aimé avec ce personnage, c'est justement en faire... il est peut-être le personnage principal du roman, celui qui...
totalement étranger au départ.
Voilà, c'est-à-dire que pour lui, l'élément fantastique... lui est totalement hétérogène. C'est-à-dire que Hugues, quand bien même il a pu rejeter sa culture, tout ce qu'a voulu lui léguer son grand-père, qu'il a toujours vu comme du folklore et non comme de la culture, ou voire même quelque chose de plus que ça, comme une part du monde à laquelle il aurait pu avoir accès, mais à laquelle il refuse d'avoir accès, Lazare, lui, n'a jamais été confronté à tout ça.
Mais qu'il peut réintégrer plus facilement.
Oui, tout à fait. Mais parce qu'il y a déjà... C'est pour ça que Hugues accepte justement plus facilement ce qui leur arrive que Lazare, qui lui n'y a jamais été confronté.
Puis il ne comprend pas.
Exactement, tout à fait.
Voilà, alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir qu'eux-mêmes franchissent le temps. Et il y a dans votre ouvrage ce qui, dans un premier temps, perturbe un peu. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'inclus dans ce roman, comme d'autres histoires, dans d'autres lieux, ça s'est voulu. Évidemment.
Oui, évidemment. Oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça permet de déployer une trame et de construire un monde cohérent, parce que c'est ça qui est intéressant dans une histoire, en fait. C'est pas tant l'histoire linéaire telle qu'elle se déroule que tout ce qui se passe à côté, tout ce qui se développe à côté. Ce que j'aime quand je raconte des histoires, c'est construire des mondes. Alors, pas de manière complète. Il y a des auteurs qui font ça de manière extraordinaire. Tolkien, par exemple, a créé un monde. Et avec ses langues, ses religions, sa géographie, on rentre et au fur et à mesure des histoires qu'il raconte, on découvre ce monde. Là, j'ai, dans ce roman-là, esquissé une partie du monde que je développe. Mais effectivement, ce monde-là, même si cette histoire se situe à un moment particulier, l'action est en lien avec ce qui a pu se passer avant, ce qui va se passer après, et pas forcément dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on a accès à d'autres mondes, entre guillemets, ou tels que ces mondes auraient pu être s'ils n'avaient pas été celui qu'il est aujourd'hui, etc. Ouais.
Et qui peuvent se superposer.
Tout à fait.
Hein, voilà, dans le temps. Et d'ailleurs, qui est la main noire des très anciens? Alors là, nous remontons très loin dans le temps.
Oui. Là, c'est un personnage dont je ne suis pas, le créateur. Cette histoire, elle a été très influencée, entre guillemets, par différents auteurs de littérature fantastique, notamment Lovecraft et Stephen King, qui était un descendant direct de Lovecraft. Lovecraft, qui est l'un des pères de ce genre de littérature. Et il y a très clairement dans cette histoire, plus que des hommages, c'est vraiment des... j'ai pas repris certains de ces personnages, mais certains de ces personnages sont vraiment inspirés de l'œuvre de Lovecraft, notamment du mythe de Cthulhu qu'il a développé. Et la main noire des très anciens est une référence très explicite pour ceux qui connaissent Lovecraft à Nyarlathotep, qui est un des très anciens, enfin un des grands anciens chez Lovecraft, qui est justement l'exécuteur des basses œuvres, celui qui se rend le plus régulièrement sur Terre quand les grands anciens veulent intervenir.
D'accord.
Alors c'est un personnage effectivement très sombre que Lovecraft décrit déjà comme un homme très grand, mince, un profil royal égyptien.
C'est ça.
Et il le fait intervenir dans ces milieux-là.
Alors de même qu'il y a un nain armé jusqu'aux dents qui lui poursuit Lusitania. Lusitania.
Oui, Lusitania. Alors là aussi, c'est vraiment des personnages là qui sont pour le coup de mon imaginaire. J'avais aussi envie, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la violence et de l'exagération de la violence pour pouvoir la mettre à distance.
Oui, parce que là, on se dit, c'est quand même, il a un côté psychopathe.
Oui, mais totalement assumé. C'est-à-dire, j'avais besoin aussi que dans cette brigade des chasseurs d'ombre, il y ait à la fois des personnages qui soient très spirituels, qui soient détenteurs d'un savoir et d'un grand savoir, et d'autres qui soient
détenteurs d'une volonté de. Allez, je vais mettre bien quand même.
Oui,
volonté de bien.
Oui, tout à fait. Alors, mais qui vont, par contre, pour le coup, eux ne pourront pas user de ces méthodes, donc faire appel dans leur groupe à...
exécuteurs de basses œuvres.
Oui, mais qui sont plutôt sympathiques, même si, effectivement, ils ne sont pas forcément toujours très fréquentables.
Et alors, quel est le rôle de Harrison Feltropack?
Lui, c'est un... Ben justement, il fait partie de ces détenteurs du savoir, de ces gardiens qui sont là depuis très longtemps. J'ai laissé le flou exprès sur son âge, sur ce qu'il peut faire et pas faire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il fait partie de la brigade depuis très longtemps, qu'il fait partie de ces gardiens qui protègent le monde contre le mal, tout en essayant, non pas forcément de l'éradiquer, mais de le contenir. En fait, il fait au niveau macro, on va dire, à grand niveau, à grande échelle, ce que Lazare tente de faire pour lui. C'est-à-dire que...
Est-ce que c'est aller à la rencontre de ce monde animal ?
Pas uniquement animal, mais oui, c'est
pas,
ça.
Oui, pas uniquement animal.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il a expliqué que le monde est de toute façon habité par des créatures qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra peut-être pas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut vivre avec ces créatures ou pas ? Est-ce qu'elles peuvent vivre avec nous ? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut vivre en symbiose ? Si elles sont tellement agressives que de toute façon, on va se retrouver éradiqué, il faut pouvoir lutter contre elles. S'il y a moyen de vivre avec, comment est-ce que ça peut se faire ? Et c'est exactement ce que va retrouver Lazare, c'est-à-dire qu'il a le choix entre se laisser complètement envahir ou apprendre à vivre avec ce qui l'envahit.
C'est décidément politique.
Oui, tout à fait.
Alors, comment avez-vous écrit ce livre ? Parce qu'il y a tellement de ramifications, de personnages multiples, de lieux, d'histoire. C'est très dense. C'est un monde que vous avez créé.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime que l'action... je suis très influencé par la littérature fantastique, là je pense que je l'ai assez dit, mais aussi par le cinéma.
Et, je pense, j'allais vous le dire, on pourrait très bien porter votre ouvrage à l'écran.
Ce serait un rêve, j'aimerais beaucoup. Si vous connaissez un producteur et un réalisateur qui serait prêt à le faire, je serais partant. Je suis très influencé par le cinéma et j'ai, une écriture extrêmement visuelle. Et du coup,
absolument.
Quand je décris une action, j'ai besoin que cette action se place dans un lieu, dans un temps et dans un lieu et un temps qui soit élargi. Donc, d'où cette importance de créer un monde qui ait une cohérence et dans lequel mes personnages puissent se déplacer, bouger et vivre.
Alors, est-ce que ça veut dire que dès le départ, vous avez un plan ?
Non.
Ah.
Alors, je fais partie, là pour le coup, c'est une réponse très péremptoire. Je fais partie de ces auteurs qui ne savent pas écrire en suivant un plan. J'ai déjà essayé, et en fait, même quand je me fais un plan, quand j'essaye de construire mon histoire, mon imagination à un moment me déborde et me fait partir dans d'autres directions. Du coup, j'ai arrêté de faire des plans.
Vous ne faites pas des petites fiches pour les personnages non plus ?
Non, même pas. Je pars d'une idée, d'un personnage, d'un titre, d'un univers, d'une situation. J'écris et je brode autour. Et petit à petit, je vais construire l'intrigue dans ma tête. En général, je sais d'où je pars,
et
à peu près où j'arrive. Par contre, j'ai pas le chemin.
D'accord.
Et donc, c'est comme un voyage, une aventure, un parcours. Je me laisse porter par mes personnages, par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils vivent, par les autres personnages qu'ils vont rencontrer. Et puis, un personnage secondaire qui, au départ, est juste là pour donner une information,
va prendre
de l'ampleur parce que je le trouve sympathique, parce que je le trouve important, parce que je le trouve intéressant, parce qu'il peut apporter quelque chose à l'histoire. Donc, évidemment, il y a des fois où je vais tomber dans les pièges, où je vais, par exemple, faire mourir un personnage à un moment et puis
et
le faire mourir une deuxième
tard.
Fois à la fin. Donc, du coup, il faut... Mais donc, ce que je fais, c'est que j'écris mon histoire.
Oui.
Une fois que je l'ai écrite, je la relis une ou deux fois, je corrige. S'il y a vraiment de grosses erreurs, notamment de cohérence dans l'intrigue, dans le déroulé, je corrige, je change, je le laisse se reposer. Je le laisse sécher, comme je dis. Je le reprends quelques temps plus tard, je le réécris. Tout ça informatiquement, c'est-à-dire sur mon ordinateur. Et quelques temps plus tard, je l'imprime et je le relis sur papier. Et là, je le réécris à la main.
Alors, merci, parce que c'est une belle séance d'atelier d'écriture. C'est intéressant de savoir comment travaillent les auteurs.
Là, alors, pour le coup, c'est très personnel. Je ne sais pas comment travaillent les autres auteurs.
Ils peuvent travailler différemment, bien sûr.
Tout à fait.
Mais c'est très intéressant. Alors, j'aimerais que vous lisiez, Christophe, un extrait de votre ouvrage à la page 165 jusqu'au début de la page 167, si vous êtes d'accord.
Tout à fait. Au sommet d'une chaîne de montagnes battue par le blizzard, de gigantesques murailles en ruine, gravées de motifs ésotériques, domine Hugues. Leur base ne laisse voir nulle ouverture, nulle porte. Mais de monstrueuses poutrelles de métal, perforant la pierre, font office d'échelons, menant à des chemins de rondes, abruptes et délabrées, surmontées d'arches. Au-dessus, des accumulations de maçonneries noires et des constructions tabulaires en surplomb, défiant les lois de la gravité, vont se perdre dans un labyrinthe de beffrois, tours et minarets qui disparaissent dans les nuages. Partout, ces remparts courent à perte de vue. Ils semblent diviser la terre en deux. « Une cité des très anciens », murmure Hugues. Il se retourne pour contempler la ville qui se dessine jusqu'à l'horizon, couvrant les montagnes. Il n'a jamais rien vu de semblable. À ses pieds, au milieu du glacier sur lequel se dresse la cité, s'ouvre un passage abrupt, à peine un sentier, qui plonge dans les abysses. Côté roche, il est bordé de bas-reliefs hideux, incrustés dans la pierre et la glace qui paraissent produire d'étranges pulsations. De l'autre, un précipice béant, horriblement attirant, laissant deviner une chute sans fin. « Suis le chemin », a dit le vieux Jack. Hugues se colle à la paroi et fait un pas, puis encore un autre et un autre.
« Ya, ya, glofti mungle glit, satwoga, emfla neftak !»
commence-t-il à murmurer, ne s'étonnant même pas que les mots lui viennent naturellement. Les peintures qui couvrent son corps le protègent, il le sait, et la lance qu'il porte dans son dos ainsi que la hache qui pend à son côté seront de solides remparts si les serviteurs des très anciens l'attaquent. Mais à quoi ces armes lui serviront-elles contre leur maître? Lentement, chahuté par les rafales, il descend, s'accrochant des deux mains au mur lorsque c'est nécessaire, manquant à chaque pas de basculer.
« Emptegrim, nengtangftag, aïe, aïe !»
répète-t-il comme un mantra. Son corps seul le dirige, trouvant les meilleures prises et les meilleurs appuis, concentré sur un but unique, sa survie. Son esprit, lui, coordonne le flux des énergies qui, dans une autre réalité, circule et s'épuise trop vite.
Voilà un extrait donc de cet ouvrage, La Brigade des Chasseurs d'Ombre. J'avais oublié que vous citiez aussi des langues bizarres. J'avais oublié de préciser également que c'est très intéressant. Souvent, vous notez des odeurs, très fréquemment. Ah, vous n'en êtes pas aperçu, mais voyez, c'est le lecteur qui le voit. Alors, voilà, on a dit pourquoi ça plaît. Je pense aussi qu'il y a une forme de rébellion, d'anticonformisme, de provocation également chez les adolescents. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parlez de cette imagination, des ambiances un peu surréalistes, hein, imaginaires en fait, à fond, hors du commun. C'est ça, hein, on peut dire que... Alors, j'avais noté cette phrase d'Antonin Artaud, « Ce fantastique dont on s'aperçoit toujours qu'il est en réalité tout le réel ».
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Je pense que le fantastique, la littérature fantastique est un biais pour parler du monde qui nous entoure, oui, en lui donnant en prenant un autre point de vue. C'est une manière détournée de regarder le monde et d'en parler.
Voilà, et on peut transformer certains personnages en personnages politiques. Voilà, pour nos auditeurs, ça va être un jeu. Ils pourront nous écrire. En tout cas, je peux dire quand même que dans cet ouvrage, moi, j'ai vu une morale. Écoutez, Chrysostome, je vois ça. À savoir qu'on peut parler des conséquences néfastes de certaines idéologies et qu'il y a quand même, il n'y a aucune apologie même implicite du crime gratuit et de la sauvagerie.
Non, ça jamais, bien jamais. Évidemment.
Voilà.
Non, bien bon, évidemment.
Voilà, je dis ça pour rassurer les parents d'adolescents qui s'inquiéteraient. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs donc qu'il s'agit d'un roman intitulé La Brigade des Chasseurs d'Ombre. C'est donc un roman qui est à la fois un roman policier, un thriller même. C'est à la fois un roman, comme je l'ai dit, qui parle de chamanisme. Donc, c'est une autre forme de spiritualité. Et c'est un roman de littérature fantastique. Alors, merci Chrysostome Gouriot de nous avoir permis d'éclairer notre lanterne, parce que moi, je ne connaissais pas ce genre de littérature. En tout cas, et je n'ai pas dit que c'était édité par les éditions Sarbacane. Merci.
Mais merci à vous pour votre invitation.